dans la conscience juive, surtout chez les juifs qui ont vécu chez les musulmans. Il faut se méfier de cela. Il y a une apparence de piété qui est très riche, mais qui risque de tromper. Parce que c'est un alibi pour évacuer la responsabilité. Quand on dit, ben, c'est le destin, c'est la destinée, vous avez dit, je ne suis pas responsable. Vous avez compris, je vous dis. Ah, méfiez-vous de ça. Et alors, ça c'est en plein la foi de l'islam. Et je peux vous dire par expérience que pour un juif, c'est très difficile à comprendre comment ça fonctionne dans l'âme d'un musulman ou dans l'âme d'un chrétien. Les chrétiens, ils sont encore tout à fait différents. On fait des analogies qui sont arbitraires, qui sont injustifiées. On dit en français qu'ils sont fausses. Il y a un mot qui m'échappe. Un juif ne peut pas comprendre comment ça fonctionne dans la tête d'un goy, qu'il soit musulman à sa manière ou chrétien à sa manière. On a des mots analogues, mais ça renvoie à des expériences complètement différentes. Quand un chrétien parle de la grâce, quand un musulman parle du mektoub, c'est très différent de la manière dont l'hébreu manie ces mêmes concepts. Pour l'hébreu, Dieu est le créateur souverain, mais qui a donné une liberté morale à la créature. C'est la raison pour laquelle on fête le septième jour, alors que les musulmans fêtent le sixième, et les chrétiens le lendemain du septième, c'est-à-dire le huitième. Pour le musulman, on n'est pas encore sorti du sixième jour, on n'est pas rentré dans le septième. Et pour le chrétien, il y a 2000 ans qu'on est sorti, on est déjà dans le huitième. Alors les chrétiens sont dans le temps de la grâce, et les musulmans sont dans le temps du mektoub. Et les historiens disent que les chrétiens ont pris le dimanche parce que le samedi était déjà juif, et que quand les musulmans sont arrivés, le dimanche aussi a été pris, ont pris le vendredi. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pour le musulman, l'homme est encore au sixième jour, pour le chrétien, il est déjà au huitième. Et finalement, où est-ce que vraiment le monde est? Est-ce que nous sommes déjà libres? Est-ce que nous sommes encore libres? Les uns et les autres sont obligés d'admettre que nous sommes dans le septième jour. Mais ils font semblant que les uns sont dans le sixième et les autres sont dans le huitième. Bon, c'est un autre problème. Mais comprenez bien ça. Il y a dans l'identité d'Ishmaël quelque chose qui le rend réfractaire à la responsabilité morale, parce qu'il est l'homme de la piété du rire au présent. Et il n'y a rien de plus indécent pour la piété biblique que la satisfaction du présent. L'homme satisfait, c'est grossier. Comment on peut être satisfait alors que le monde est dans l'état où il est? Il n'y a qu'à lire le monde, vous verrez comment est le monde. Vous connaissez le journal qu'on appelle Le Monde? Alors lisez Le Monde. C'est un récit d'une histoire qui se passe en enfer. Ils appellent ça Le Monde. Alors qui peut être satisfait de l'état du monde? Qui peut rire au présent? Voilà, j'espère que vous avez compris ce qui est indiqué dans ce contexte. Après, on va voir la suite du texte. Il y a d'ailleurs dans la Gemara l'enseignement suivant. Celui qui reste une semaine sans rêver est appelé rachat. C'est exactement le contraire de ce qu'on pense dans la culture occidentale où on parle du sommeil du juste. Alors que la Gemara intervient et dit, est-ce qu'un juste peut dormir tranquillement? Est-ce qu'un juste peut dormir sans avoir des cauchemars? J'ai compris. Regardez juste où ça va. Et que le Shabbat, on a le droit de dormir en paix. Mais quelqu'un qui a vraiment une conscience de juste ne peut pas ne pas avoir des cauchemars, vu ce qui se passe dans le monde. Et par conséquent, voilà ce que dit la Gemara. Quelqu'un qui reste une semaine sans rêver, c'est sûr que c'est un rachat. Alors, ne faites pas des comparaisons avec vos cas personnels. Il y a des gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est des chaïs. Mais imaginez un peu quel profil d'identité est visé là. Quelqu'un qui est satisfait de l'état du monde. Vous voyez, ce rire grossier, ce rire plein, ce rire grossier. Eh bien, c'est ça que le texte vise. Celui qui est capable de ce rire-là, c'est sûrement un rachat. Alors, Rabbi Akiva dit, qu'est-ce un rachat? C'est l'idolâtrie. Rabbi Eliezer dit, c'est quoi? C'est la débauche. Et Rabbi Yoshua dit, chacun, sur son expérience, vu les tendances de la nature humaine, on est plutôt porté au risque de l'idolâtrie, de la débauche ou du meurtre. Alors voilà, jusque là. On continue. Prenez le texte. Et Rabbi Yoshua, Pira et Rabbi Shimon Bar Yochai continuent.
va à Niomé. Et moi, je dis.
Maintenant, ce rabbi, Shimon Bar Yochai, qui est l'élève
des trois précédents,
dit, va à Niomé, suivez sur le texte. Et moi, je dis, Chas Meshalom, que Dieu préserve, Shei et Bebeto Sheloto Tzadik, Meshe Asechen. Qu'il y ait dans la maison de ce juste, c'est-à-dire Abraham, quelqu'un qui agit ainsi. Alors, déjà, l'intervention de Rabbi Shimon Bar-Yochai est difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'oppose à l'enseignement de ses maîtres ? Quand on sait la différence de niveau qu'il y a dans les différentes générations des maîtres, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Alors, voilà ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que c'est Ishmaël dans la maison de son père ? Ça veut dire, lorsque Ishmaël est vraiment musulman, c'est-à-dire qu'il a fait tchouva par rapport à la religion d'Abraham. Dans l'histoire de la lignée d'Ishmaël, il faudra attendre très longtemps pour que l'islam apparaisse et que Ishmaël fasse tchouva dans le sens de rentrer dans la maison de son père. C'est l'islam. L'islam, ça fait que 14 siècles. Jusqu'à Mahomet, c'était des tribus de pillards, de débauchés et de gens superstitieux. Et Mahomet a eu une grande lutte chez les ismaélites pour les reconvertir au monothéisme d'Abraham. Il l'a fait à la manière de la musulmane, mais un vrai musulman, en principe, n'est pas idolâtre, n'est pas débauché, n'est pas assassin, je dis en principe. Parce que si vous voyez les musulmans de la réalité, plus ils sont pieux et plus et plus et plus. Mais ça, c'est la réalité historique. Mais l'idéal de l'islam, c'est précisément la pureté de la foi monothéiste, la pureté des mœurs sexuelles et la pureté des rapports d'hospitalité. Dans une famille musulmane pieuse, il n'y a aucune idée à quel point les femmes sont protégées des risques de tentation de débauche. Il y a, les hommes se débrouillent autrement, mais en tout cas pour les femmes. Il y a un proverbe musulman qui est très joli qui dit « Les femmes et les perles, il faut les mettre dans des écrins, bouclés. » Ça, c'est l'islam. Seulement, voilà ce que veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si Ishmaël fait tchouva dans le sens qu'il rentre dans la maison de son père, le rire, ça ne veut pas dire ça. Et son rire, ça veut dire quoi ? Alors, lisez la suite. Et là, continuez à dire un bichement de l'Echaï. Enschrovzé la Yerusha. C'est le rire de dérision sur la contestation d'héritage d'Isaac. Comme je disais tout à l'heure, Ishmaël se moque de Isaac en disant « Tu crois que l'héritage d'Abraham t'appartient, c'est moi l'aîné et j'ai droit à deux parts, et l'Arabie et la Palestine. » Vous voyez comment ça marche dans l'histoire. Alors, on lit la fin de du texte. Ishmaël metzachek veomer. Ishmaël rit et dit Ani becho, je suis l'aîné, venotel shenechaakim, et j'hériterai de deux parts. Vous voyez que c'est exactement la contestation d'Ishmaël vis-à-vis de Israël. Alors, jusque-là, c'est clair. Le rire nous est interprété dans le sens du rire du rachat. Tant qu'Ishmaël n'a pas fait tchouva vis-à-vis d'Abraham. Maintenant, il reste à faire tchouva vis-à-vis d'Israël. Et tant qu'il n'a pas fait tchouva vis-à-vis d'Israël, son rire, c'est la contestation de l'héritage d'Abraham, c'est-à-dire ce que nous avons à terre d'Israël. Alors, j'espère que c'est suffisamment clair dans votre esprit que c'est exactement la querelle et la rivalité de l'islam vis-à-vis du judaïsme. C'est-à-dire se réclamer de l'héritage de la maison d'Abraham, la terre de Canaan y compris. Exactement ce qui se passe. Alors je crois qu'il n'y a rien à ajouter sur ce premier niveau. Non, maintenant, dans le temps qui nous reste, je vais aller un peu plus légèrement, je sais que vous êtes fatigué. Vous avez arpenté la terre d'Abraham, et alors l'objet de la contestation de l'héritage. Et alors, il nous reste une deuxième chose à voir, ce que la Torah raconte de la fin de l'histoire de cette rivalité. Alors vous allez prendre le texte à la fin de la paracha de Chaye Sara, c'est-à-dire au chapitre 25.
Alors, prenez le chapitre 25, café. On va prendre à partir du verset 8. Alors, jusque-là, on sait que dans la maison d'Abraham, il y a une rivalité très grave entre deux manières d'être le fils d'Abraham, un qui est Ishmaël, et qui est né au temps où Abraham s'appelait Abraham. Vous vous rappelez ? Et celui-là rit au présent, et l'autre, qui est Israël, qui va naître lorsqu'Abraham a changé de nom. Il s'appelle déjà Abraham. Mais lorsque les musulmans disent aux juifs qui le croient que nous avons le même père, il faut préciser, c'est pas exactement le même père. Eux sont fils d'Abraham, alors que nous sommes fils d'Abraham. D'ailleurs, le monothéisme n'est pas exactement le même. Ça, on étudiera un autre jour, je ne veux pas trop vous fatiguer aujourd'hui. Quand ils disent que Dieu est un, ils veulent dire qu'il est unique. Quand nous disons qu'il est un, c'est non seulement qu'il est unique, mais qu'il est un en lui-même. C'est deux termes différents. Comment dit-on un en hébreu ? Echad. Et unique ? Yachid. Qu'est-ce que tu as dit ? Hein ? Pas toi, mais vous là-bas. J'ai entendu une faute. Hein ? Alors, Echad, c'est un, et unique, c'est Yachid. Et nous avons qu'à trois dimensions dans l'antiquité hébraïque. Echad, Yachid, Muchad, je n'explique pas aujourd'hui. Mais en tout cas, Echad et Yachid, c'est différent. Yachid, ça veut dire, et c'est le monothéisme de l'islam, il y en a un seul. C'est le monothéisme de l'unicité. Tandis que Echad, c'est que celui qui est seul avec Dieu est un en lui-même. Et ça, c'est au-delà du monothéisme musulman. En tout cas, quoi qu'il en soit, il reste la deuxième querelle avec Isaac, le rire de la rivalité de l'héritage. Alors, on va voir ce que dit la Torah à la fin de la vie d'Abraham. Vous prenez au verset 8, Chet, du chapitre 25. Il s'agit d'Abraham, « Vaïvar vaïamont Abraham » et Abraham expira et mourut. Ce n'est pas le même mot, ni en hébreu ni en français d'ailleurs. « Vaïvar », ça veut dire qu'il a vécu toute la quantité de vie biologique qui était la sienne à vivre, jusqu'au dernier souffle, littéralement. Et « Vaïvar », on traduit en français « il expira », pour montrer cette idée du dernier souffle, ça veut dire qu'il a vécu l'intégrité et l'intégralité de sa vie. Vayamot, il mourut, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Lorsque le corps a expiré, l'âme le quitte. Et nous verrons tout à l'heure que, Rashi va le mettre en évidence, on ne dit Vaïkvar que pour les tzadikim. Ça, les tzadikim ont le privilège de vivre toute la quantité de vie qu'ils devaient vivre. Et ils meurent à la fin de leur vie, pas de manière brusque. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ce qu'on appelle Mita Binshika, la mort dans un baiser. Alors, nous vivons, nous, des dernières générations d'une histoire très longue. Alors, c'est très compliqué, le sort de chaque individu. Mais des êtres d'exception qui meurent parce qu'ils ont achevé de vivre. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est pas que leur conduite dans la vie, la manière dont ils se sont comportés, qu'ils soient complètement ou pas complètement responsables, fait qu'ils contractent des maladies qui mettent un terme à leur vie avant le moment de la guérilla. Vous avez compris le problème ? Alors, Vaïkvar vaïamont Abraham, Beseva Tova, en bonne vieillesse. Tout de suite, le Midrash va intervenir. Comment Abraham peut mourir en bonne vieillesse avec une histoire pareille ? Imaginez Abraham, vieillard apaisé, pendant que, à Paris, vous avez deux représentants de sa descendance, Ibrahim Sous, qui représente l'OLP, et puis Abraham Chor, qui représente l'ambassade. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et le plus fort, c'est qu'il s'appelle comme ça. Et alors, le Midrash va donner l'explication, et c'est là que nous allons retrouver notre problème. Beseva Tova, on voyait Zaken, vieillard, Savéar, rassasié dessus, de jour, Vaya Seferamad, il fut adjoint à son peuple, ça veut dire son âme a rejoint l'âme de ses ancêtres. Verset 9. Vaïk Beru Oto, Yitzhak, Ishmael, Banav, et l'enterrèrent Isaac et Ishmaël, ses fils, El Me'arat HaMachpela, à la caverne de Machpela, El Tzde Ephron, au champ de Ephron Ben Zohar, à Chiti le Chitéen, Asher Alpene Mamre, qui se trouve à côté de Mamre. Prenez Rashi sur Israël et Ishmaël, verset 9. Cela nous allons avoir l'explication du Midrash, comment on peut dire qu'Abraham est mort en bonne vieillesse. Mikan, vous y êtes, le Rashi ? Le fait que le verset cite Isaac avant Ishmaël, et ça veut dire, je vous décris la scène, Ishmaël, qui était en Égypte, apprend qu'Abraham est mort, il se trouve à Hébron. Il revient de l'Égypte chez Isaac à Hébron pour l'enterrement d'Abraham. Et on va apprendre que ça signifie qu'il reconnaît que c'est Isaac qui est chez lui à Hébron. Et le texte dit, elle enterrèrent Isaac et Ishmaël, ses fils. Isaac avant Ishmaël. Ça veut dire que Ishmaël a reconnu la préséance d'Isaac. On lit Mikan, chez Asa Ishmaël Shuva, de là on apprend Ishmaël s'est repenti, Veolir et Titzrach Lefanav, et a fait marcher Isaac devant lui, a reconnu la préséance d'Isaac, Vehi Seratova, et c'est ça la bonne vieillesse chez Nehemra Abraham qui a été dite pour Abraham. Ça veut dire qu'à la fin de la vie d'Abraham, à la fin du cycle d'Abraham, Ishmaël et Isaac vont se réconcilier. Où ? À Hébron. Je ne sais pas si vous remarquez que Hébron, c'est la seule ville arabe où le gouvernement d'Israël, qui n'avait pas lu Rashi, en tout cas Rashi n'avait pas lu Moshe Dayan, c'est Moshe Dayan qui a décidé, a installé une ville juive à côté d'une ville arabe. C'est que à Hébron. C'est ni à Shrem, ni à Yericho. C'est à Hébron. Ça veut dire que tout est en place. Lorsque Ishmaël reconnaîtra que c'est Isaac qui est chez lui à Hébron, c'est le signe qu'Ishmaël aura fait Tchouva. Et à ce moment-là, le cycle d'Abraham s'achève. Encore une fois, on n'en est pas là. Tout est en place, mais on n'en est pas là. Mais peut-être que vous êtes encore assez jeune pour le voir, moi aussi d'ailleurs, on va le croire, qu'on verra ça de notre temps, quand enfin le monde musulman reconnaîtra qu'Israël est chez lui à Hébron, ça sera la tchouva d'Ishmaël, l'achèvement de la tchouva d'Ishmaël, qui a commencé avec Mahomet par rapport à la religion d'Abraham. Mais il manque encore le deuxième stade, le repentir d'Ishmaël par rapport à Isaac. Et c'est pourquoi on va apprendre que la notion de Ishmaël tzaddik existe. Et un Ishmaël n'a pas besoin de devenir Israël pour être tzaddik. Il faut qu'il fasse chouva sur les trois grandes fautes de l'idolâtrie, du meurtre et de la débauche, et sur la rivalité sur Eretz Israël. Il devient tzaddik. Et c'est ce qu'on va apprendre à la fin de la vie d'Ishmaël. Je vais prendre le dernier verset, qui est au verset 17 du chapitre 25. Vereshne chay Ishmaël, et voici les années de la vie d'Ishmaël, Me'at Shana, 100 ans, Shloshim Shana, 30 ans, Shevar Shanim, 7 ans. Vaigva, Vayamot, et on retrouve la même expression qui avait été dite pour Abraham. Il expira, il mourut, Vayasef el Hamar, il fut adjoint à son peuple. Regardez Rashi, sur Vaigva, verset 17, dans Rashi. Vous l'avez sous les yeux, à la fin du Rashi dans le verset 17, je dis, Vaïva, l'onemra gvia et la betzadikim. Le terme de gvia, expiré, n'est dit que pour les tzadikim. Alors on pose la question à Rashi, pourquoi il attend le verset d'Ishmaël pour nous donner l'explication du mot de gvia, étant donné que l'habitude des commentateurs, c'est d'expliquer un mot difficile la première fois qu'il apparaît. Or, la première fois qu'il apparaît, c'est pour Abraham. Pourquoi il attend le verset d'Ishmaël ? C'est pour nous indiquer ce qui pourrait nous échapper, qu'Ishmaël, ayant fait tchouva, est appelé tzadik. Donc, retenez bien cela, dans notre différend avec l'islam, il n'est pas nécessaire qu'un musulman se convertisse à Israël pour être tzadik. Il peut être tzadik en étant musulman. Et je dois dire que dans ma vie, j'ai connu des musulmans tzadik. Ça existe, c'est rare. par rapport à Israël en tout cas, mais ça existe. Et nous recevons à la radio ici énormément de lettres de musulmans, en général de pays non arabes, mais certains aussi de pays arabes, surtout du Maroc, qui nous disent leur amitié, leur respect pour Israël, et qui sont contre les Arabes ennemis d'Israël. Mais ce sont des individus. Ce sont des Ishmaélim Tzadikim. Ça existe. C'est des musulmans pieux et amis d'Israël. Ils sont en danger de mort dans leur propre communauté, c'est pourquoi ils n'osent pas se manifester, mais ça viendra un jour. L'année dernière, j'ai participé à un pèlerinage au Maroc, au moment de la Hiloula, au moment de l'Akba Omer. Il y a des Marocains parmi vous? Il n'y en a plus? Ça a disparu? Et alors, on a été reçus dans les grandes villes du Maroc, mais vraiment de manière princière. Et tout le monde savait, il y avait une consigne, pas prononcer le nom d'Israël, mais tout le monde savait que nous étions des Israéliens. Ils nous ont reçus vraiment avec une hospitalité, vous n'avez aucune idée. Et alors, on était reçus uniquement par des dignitaires musulmans qui sont dans le cas que je vous décris. Les autres, bien entendu, ne mettaient pas les pieds dans les réceptions en question. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années. Il y avait un grand rassemblement d'éducateurs juifs à Casablanca, et j'arrive d'Israël en passant par Paris avec mon passeport français, mais je suis domicilié à Jérusalem. Et arrivé à la police à l'aéroport, ça s'appelle Nasser, je crois, cet aéroport, Nasser, de Casablanca, l'officier de police qui me garde une heure. Je commençais à être inquiet, les prisons marocaines n'étaient pas faites pour moi. Alors je m'approche du capitaine, je lui dis, écoutez mon capitaine, si c'est parce que je suis domicilié à Jérusalem, téléphonez au consul de France, rapatriez-moi à Paris. Il dit, non, c'est pas ça, vous êtes né en Algérie. Et ils étaient en guerre avec l'Algérie. Ah, j'ai dit, mais vous savez, je suis juif. Il dit, vous êtes juif, rentrez monsieur. Ils m'ont pris pour un terroriste algérien. Alors pour vous dire que ça peut exister, à l'échelle individuelle, la notion de Ishmael Tzadik. Alors qu'on verra, et que la prochaine fois, dans la rivalité entre Ésaü et Jacob, il n'y a pas de notion d'Ésaü Tzadik. Un chrétien qui cesse d'être anti-juif, c'est plus un chrétien. Alors il peut être Tzadik, mais c'est plus un chrétien. Bon, mais ça, et d'ailleurs, les chrétiens qui ne sont pas anti-juifs sont très angoissés, parce qu'ils savent très bien que la théologie des évangiles se base sur un anti-judaïsme absolu. Et alors, actuellement, il y a énormément de chrétiens qui découvrent qu'être anti-juif, c'est le comble des crimes après la Shoah, et ils ont des problèmes terribles. Bon, mais ça, je vous en parlerai bien après. En particulier, les chrétiens qui habitent Jérusalem, certains sont citoyens israéliens d'ailleurs, et ils sont vraiment crucifiés. Bon, c'est leur vocation. Entre, d'une part, leur foi, et d'autre part, leur amour d'Israël, ça leur donne des maladies de foi, d'ailleurs. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Alors, c'est très différent dans ce problème-là entre Ishmaël qui fait tchouva et Ésaü qui fait tchouva. Un Ésaü qui fait tchouva, c'est Jacob. Ésaü n'existe plus. Alors, ça, on verra ça dans le cours de la prochaine. Bien, s'il n'y a plus de questions, vous avez. Quelle histoire ?
Vous êtes arrivé à Casablanca,
été reçu
par des gens.
Eh bien, c'est ce que je voulais vous raconter, ce qui s'est passé à l'aéroport. D'ailleurs, il y avait des dirigeants de la communauté Casablanca qui m'attendaient dehors, qui sont faits, ils étaient dans une angoisse terrible, ils cherchaient déjà comment contacter les autorités israéliennes clandestines de Casablanca pour me délivrer de l'aéroport.
Avram a progressé. Bon, Avram qui est devenu Avram, il a progressé. Et quand il est sorti de Rokazim, bon, c'était comme un juif de Galout, il sortait de. Je veux dire, il n'y avait pas encore de juifs, il n'y avait pas encore de. Comment est-ce qu'on peut appeler ça ?
C'est pour ça qu'il a très bien dit comme un juif de Galout. C'était un araméen. T'as oublié ?
Oui,
l'hébreu à Babel, c'est un araméen. De la même manière que l'hébreu en Europe, c'est un juif.
Il n'est pas encore d'hébreu non plus.
Si. Eh bien, et pourtant tu as appris cela et tu l'as oublié. Alors je vous rappelle les premiers cours que vous avez eus. Je vais te donner la référence. Tu vas prendre la fin du chapitre 11. La nation des Hébreux a été fondée par Éver, l'ancêtre d'Abraham. T'as oublié ça. Ça y est, c'est clair. Alors tu prends la fin du chapitre 1, tu vois toute la généalogie à partir de Hébert. Et Hébert, c'est un ancêtre d'Abraham. Et on l'appelle Abraham l'Hébreu parce qu'il descend de Hébert. Alors je sais bien que c'est pas très connu. Il y avait une nation des Hébreux à Babel qui a été détruite par les Babyloniens de l'époque. Et la famille d'Abraham était un rescapé de cette nation. Vous voyez, c'est clair. Voilà. Bon, alors c'est assez. Donc, comment ?